Bien, merci. En attendant que tout le monde réfléchisse à son selfie, à la scénarisation, un peu de tout ça, on va donner la parole à Jean-Pierre Berthet. Jean-Pierre, donc, est entre autres directeur du Learning Lab de l'École centrale de Lyon. Et il est aussi cofondateur du réseau national des Learning Labs. Donc, dans cette session sur les lieux d'apprentissage, forcément, il a des choses à nous dire.
Bien, merci Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va essayer de faire un numéro à deux avec Didier et faire un peu des regards croisés sur la notion de lieu de territoire apprenant. Donc moi, je vais centrer les choses sur un Learning Lab, qu'est-ce que c'est, et sur le réseau des Learning Labs. Avant de démarrer sur ce que c'est qu'un Learning Lab, c'est avant tout se poser des questions alors, qui ont aussi à voir avec ce qui a été dit avec François Taddy tout à l'heure, donc d'un contexte. Le contexte, c'est qu'on est passé effectivement à l'ère du numérique. Alors c'est vrai pour l'éducation, mais c'est vrai évidemment à toutes les stades de la société. Cette transformation numérique, elle est profonde et on peut tout faire sauf l'éviter. Et donc, il faut essayer de faire avec. On a affaire aussi au fait qu'il faut qu'on réponde à des nouveaux enjeux, qui étaient aussi expliqués par Pierre et François dans leur échange. Quelque part, il faut qu'on prépare nos étudiants, alors c'est Dikey Mataï qui le dit, à des boulots qui n'existent pas encore, qui vont utiliser des technologies qui n'ont pas été encore inventées, pour résoudre des problèmes qui ne sont pas des problèmes pour l'instant. Donc la notion de leur fournir un certain nombre de connaissances, mais aussi de compétences au long cours, qui vont permettre d'apprendre tout au long de la vie, notamment l'esprit critique, tout ce qui a déjà été évoqué. Enjeu également, c'est qu'ils sont tous nés au XXIe siècle. Nous, on est des produits du XXe siècle, on subit la technologie, mais eux sont nés au XXIe siècle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils préfèrent lire sur des devices, qu'ils utilisent la technologie à plusieurs, qu'ils créent sur les écrans. Ça veut dire aussi qu'ils sont atteints de nomophobie. La nomophobie, c'est no mobile, c'est quand vous n'avez plus de réseau, quand il est en panne, quand il est déchargé. Voilà. Donc c'est le stress absolu. La pyramide de Maslow de l'étudiant, vous vérifierez, alors là c'est le lien avec les espaces, c'est est-ce qu'il y a du courant, est-ce qu'il y a du Wi-Fi ? Vous pouvez tout à fait voir des étudiants dans une situation hyper inconfortable dans un couloir assis par terre, parce que c'est là où il y a la prise de courant de la femme de ménage, et qu'il faut bien recharger son téléphone portable ou son ordinateur, et on préfère travailler là, de manière inconfortable, parce qu'il y a du courant. Donc c'est aussi une réflexion sur les espaces. Les espaces, ça doit permettre aussi de répondre à ces besoins fondamentaux du courant, du Wi-Fi. Sinon, voilà, la nomophobie les gagne. On utilise des outils qui ne sont plus les leurs. J'aime bien cette petite phrase. C'est les seuls emails que je reçois, c'est ma grand-mère et les applications qui me les envoient. Donc l'email n'est plus le mode de communication. C'est un mode de communication institutionnel pour la plupart des étudiants, mais le mail n'est pas leur mode de communication. Il faut tenir compte de ça aussi. Et enfin, ils travaillent dans un monde connecté. C'est-à-dire que si l'on dit, fermez vos devices, bon, c'est pas grave, la montre peut recevoir les messages, donc c'est pas très très grave. Donc ce monde connecté, l'Internet des objets, est aussi quelque chose qui va être... Enfin, en tout cas, il faut le prendre en compte dans le contexte qui arrive actuellement. C'est aussi se poser la question de quel futur on veut pour l'éducation. Est-ce que ça ressemble à ça ? C'est la version qu'on avait au début du XXe siècle sur qu'est-ce que serait l'apprentissage au XXIe siècle. Voilà, c'est quoi ce futur ? Et puis la place des technologies aussi dans l'éducation. Alors, j'aime beaucoup ce dessin qui a été inspiré par notre ami Marcel Lebrun avec un de ses amis belges. C'est avec les technologies, il faut qu'on reproduise les mêmes modèles. Ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'on change la manière d'enseigner et d'apprendre ? Donc, la notion de l'influence de l'un sur l'autre, qui est importante, que si on reproduit effectivement les modèles, ça donne à la limite un amphi comme ici où il y a de la technologie, où moi je parle et puis je n'interagis pas avec vous. Voilà, ce qui est la pire des choses. C'est aussi se poser la question de quelle université demain ? Ça, c'est l'université telle qu'on l'a voyait au Moyen-Âge. Alors j'attire votre attention sur cette image, pour ceux qui ne la connaissent pas, parce qu'on voit quand même qu'il y en a un qui dort, qu'il y en a qui discute, qui joue aux cartes, il y en a un qui est en train de draguer sa voisine. Donc voilà. Et ça, c'est un amphi maintenant. Alors vous remarquerez qu'il y en a toujours un qui est en train d'essayer de draguer sa voisine. Ça n'a pas changé. Et que les autres, au lieu de jouer aux cartes, en fait, ils jouent au jeu en réseau au fond. Mais globalement, ça n'a pas changé. Donc, est-ce qu'on veut aussi changer ça, cette manière de transmettre, je parle, est-ce qu'ils apprennent, ça, c'est aussi une autre question. Voilà. Donc, ça pose la question de est-ce que l'université doit reproduire ces modèles-là ? Est-ce qu'en matière d'architecture, en matière de lieux, on doit reproduire les lieux à l'identique tels qu'ils étaient, en mettant un peu de technologie dedans, mais que ça ? Ou est-ce qu'il faut repenser les lieux ? Alors, c'est un petit peu les objectifs que l'on a. Et alors, c'est global. Si on regarde à 5 ans, là, je vous ai... Alors, on ne va pas le lire. Hein, mais le dernier rapport du New Media Consortium, qui est une fondation américaine, qui regarde les évolutions à 1, 3, 5 ans et au-delà de l'impact des technologies dans l'éducation. Je fais juste un zoom sur l'impact à moyen terme, l'impact à 3 ans. Deux choses importantes, c'est... Measuring learning, donc tout ce qui concerne l'évaluation et le poids de l'évaluation. Et le deuxième point, c'est repenser les espaces d'apprentissage. Donc ça, c'est une constante que l'on voit partout dans le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, j'ai essayé de dresser une petite typologie des nouveaux lieux, nouveaux espaces, mais je pense que Didier sera beaucoup plus pertinent que moi là-dessus. Voilà, essayer de brosser quelques catégories, alors qui valent ce qu'elles valent, hein, c'est plutôt empirique qu'autre chose. Donc déjà, il faut séparer ce qu'on appelle les espaces formels et les espaces informels. Dans les espaces informels, ça va être tout ce qui va être repenser les lieux de convivialité, les espaces, en fait, les grands couloirs que l'on a, dans lesquels il faut essayer de les repenser comme espaces où on peut les reconquérir pour créer la convivialité. Les cafétérias, qui amènent des nouveaux espaces de travail. Il y a un effort assez important qui sont faits par les CRUS régionalement et le CNUS nationalement, pour repenser ces lieux-là pour qu'ils soient ouverts de manière beaucoup plus large, avec des plages horaires où on peut travailler et aussi éventuellement consommer du café. Les espaces de coworking qu'on voit de plus en plus naître au sein de nos universités. Moi, j'étais frappé il y a 2 ans par des familles qui accompagnaient des élèves qui rentraient à l'école, qui me disaient, mais c'est où les lieux où ils peuvent travailler, des espaces de coworking pour les étudiants ? Donc c'est des choses qui sont passées dans la société et il faut qu'on soit aussi à l'aise avec ça et de créer ces espaces pour qu'ils puissent travailler en projet. Si on veut développer le travail en projet, il faut qu'ils aient des lieux pour travailler en projet. Sinon, ils travaillent ailleurs, dans leur chambre. Alors après, c'est le lien avec la société, mais si on veut les garder dans nos campus, il faut faire attention à ça. Et on voit parfois des intégrations de ces différents éléments, d'espaces conviviaux, de cafétérias connectés, d'espaces de coworking, au sein de Learning Center qui intègre un petit peu parfois ces différentes dimensions. Du côté des espaces formels, ben, toutes les salles de pédagogie active en font partie. Les salles de coworking, c'est des salles dans lesquelles on fait des pédagogies plutôt de travail collaboratif et d'échange. Des living labs sont des lieux où on observe aussi ce qui se passe et comment les gens apprennent différemment. Et on intègre ça dans des fonctions de type learning lab, qui sont des laboratoires d'innovation pédagogique dont je parlais tout à l'heure. Alors on voit aussi apparaître des choses hybrides qui sont à cheval entre l'informel et le formel, ce sont les Fab Labs, qui sont aussi ces nouveaux lieux d'apprentissage. Et dans certains cas, on a des projets intégrés, notamment sur la commune Université de Lyon, des projets de fabrique numérique, dans lesquels on va trouver tous ces éléments-là, plus des plateformes avec la recherche pour pouvoir travailler avec des entreprises, pour avoir des plateformes d'innovation qui viennent en plus dans ces espaces-là. Alors ça, c'est un tableau qui vaut ce qui vaut. C'est un paysage qui est mouvant. Et il n'y a pas de... Prenez pas ça comme vraiment une vérité, mais comme un essai de typologie, mais en sachant que cette typologie bouge beaucoup. En fait, ça dépend beaucoup de ce qu'on veut en faire. De revoir les espaces, c'est surtout avoir des espaces qui sont appropriés à la pédagogie que l'on veut mettre en place. Alors, le Learning Lab, maintenant j'en arrive à ce qu'on a mis en place, c'est dans le cadre d'un appel à projet IDEFI, ce que l'on avait travaillé avec EM Lyon et Centrale Lyon. Et le Learning Lab est construit sur 3 points, c'est d'abord la pédagogie, c'est les méthodes pédagogiques plutôt actives, donc comment on les met en place, l'impact des technologies sur ces méthodes, que ce soit des méthodes numériques ou non numériques, d'ailleurs, on utilise beaucoup les murs écritoires, ben, c'est une technologie qui n'est pas une technologie numérique, mais qui est très, très, très pratique. Voilà. Donc, et ça se complète très bien avec le numérique. Et puis, l'impact des environnements d'apprentissage, ces environnements physiques ou numériques, mais surtout physiques, comment les lieux peuvent être capacitants, donc fournir des capacités, et non pas bloquants. Voilà. On voit parfois des endroits où on rénove des bâtiments, où on fait des salles de cours avec des chaises qui sont, enfin des tables qui sont fixées au sol. Voilà. Quelle flexibilité on peut apporter une fois que les tables sont fixées ? Difficile. Voilà. Donc, on a 400 mètres carrés qui sont dédiés à l'innovation pédagogique, donc avec des salles, avec des, je dirais des équipements relativement variés. Et. On joue beaucoup sur la flexibilité des lieux, sur le mobilier, la décoration, sur le son, le confort sonore, et un point, l'acoustique est un point qui est extrêmement important. Et ça permet, en fait, si on a une bonne acoustique, de faciliter le travail dès qu'on est en sous-groupe. Avec des mobiliers qui peuvent être flexibles, et puis des fonctions comme celle-là, ça c'est notre café pédagogique, qui est un lieu stratégique où on reçoit les enseignants et où on accompagne les enseignants. Parce qu'avant tout, ce qui est important dans ces lieux, c'est des lieux où il y a des humains qui parlent à d'autres humains. Et ces humains-là, qui sont les enseignants, doivent collaborer avec d'autres humains qui sont les apprenants. Donc, c'est avant tout des lieux dans lesquels l'humain est au centre. Si on fait des lieux, moi j'ai déjà vu ça, dans lesquels on dit, voilà, on a acheté des chaises à roulettes, et puis on a une salle d'innovation pédagogique. Oui, mais vous faites quoi avec l'innovation ? On a des chaises à roulettes. Voilà. Donc, si vous mettez de la technologie pour la technologie, ça ne va pas faire grand-chose. Au pire, on reproduira des modèles. Donc ça veut dire que l'accompagnement des enseignants, les fonctions de conseillers pédagogiques ou des équipes TIS d'accompagnement sont primordiales dans les lieux de ce type-là. Il faut que les enseignants qui viennent tester, expérimenter, se sentent en confiance. On travaille sur leurs projets, on les sécurise. Et puis au début, c'est ceinture bretelle, on est là pour les accompagner. Et puis ben, après, hop là, on peut les lâcher. Mais ce rôle, il est important. Alors j'ai une petite vidéo qui montre un petit peu comment on apprend. Alors, elle est un petit peu sponsorisée parce qu'un de nos partenaires a tourné la vidéo et donc ça ne nous a rien coûté. Mais donc du coup, il y a un peu de placement de produit et je m'en excuse par avance.
Jean-Pierre, où sommes-nous ici ?
Nous sommes au Learning Lab, un lieu où on travaille sur les méthodes pédagogiques innovantes avec l'aide des technologies.
Et imaginez de nouveaux lieux d'apprentissage.
Vous venez avec nous ? On va vous montrer ce qu'on fait ici.
Innover.
Communiquer. Simplifier.
Pour comprendre l'université du futur, je pense qu'il faut s'interroger aussi sur l'université du passé. Les étudiants, traditionnellement, ben, ils doivent aller dans un auditoire donné, en un temps donné, pour recevoir un savoir qui est transmis par le professeur.
Progresser.
S'adapter.
Anticiper.
À l'heure actuelle, nous le savons bien, les savoirs sont externalisés. L'externalisation des savoirs s'occupe surtout de la numérisation des ressources, c'est-à-dire finalement du côté enseignement, le professeur qui transmet.
Collaborer. Partager.
motivé.
La question qui reste évidemment à résoudre, c'est l'appropriation par l'apprenant. C'est-à-dire qu'après avoir écouté le savoir, il est nécessaire de travailler des connaissances plus fluides, c'est-à-dire des compétences en fait de communication, de collaboration.
Apprendre.
Voilà, donc ça vous montre un petit peu comment on travaille dans ces espaces-là. Alors, ce qu'on y fait, c'est que évidemment, c'est utilisé par nos étudiants et par la formation continue. On l'utilise aussi pour professionnaliser les enseignants, mais on accueille aussi beaucoup les entreprises, les institutions, pour des séminaires de créativité, pour travailler avec eux. On accueille aussi des écoles, on accueille des publics très très variés pour travailler sur ces aspects-là, puis aussi pour éventuellement démultiplier les choses sur ces espaces. On a aussi des partenariats pour co-construire des produits. Alors, une technologie, juste 30 secondes sur cette technologie, parce que c'est une technologie que moi j'aime beaucoup, qui sont les robots de téléprésence qu'on expérimente, qui sont au service d'élèves ou d'étudiants malades ou hospitalisés, et qui nous ont permis, par exemple, pour Simon qui avait eu un accident de montagne, eh ben lui, il va en cours, il va en TP, il va en TD avec un dispositif où il peut se déplacer, être totalement autonome. Et Jeanne, dans ce deuxième exemple, qui était opérée du dos, là vous voyez le dispositif que son papa lui avait bricolé chez elle. Jeanne, elle est en cours, mais elle a fait aussi du théâtre d'improvisation sur scène. Alors c'est ces technologies-là qui font que, quand on les découvre, elles ne sont pas faites pour l'éducation initialement, mais on voit comment, tiens, à partir de choses qu'on a pu voir, ben, on se dit, ces technologies-là, comment on peut les transposer de manière à ce que ça soit efficace dans le domaine de l'éducation. Alors, j'ai un petit témoignage de Jeanne qui parle de ça, d'ailleurs.
Concrètement, si je n'avais pas le robot, je devais redoubler. Donc, ça le sauve dans le sens où, oui, j'ai mon année, ça le sauve aussi dans le sens où s'il y avait juste un Skype installé dans la salle, je peux bouger, je peux communiquer, je peux choisir là où je regarde, je peux... Ben, c'est moi, mais autre part,
C'est moi, mais autre part. Alors ça, cette technologie qu'on aime bien tester, c'est regarder aussi ce qui sort dans les technologies et voir comment est-ce qu'on peut les adapter et faire en sorte que ces technologies-là soient des technologies qui apportent, qui ne soient pas contraignantes, ni pour l'étudiant, ni pour l'enseignant, et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter en plus. Alors, on s'est aperçu en fait qu'on n'était pas les seuls à faire ce genre de choses. Ça, c'est une rencontre qu'on a pu faire d'ailleurs avec nos collègues de Télécom Saint-Étienne. Ils sont venus nous visiter, mais il faut venir voir ce qu'on a fait. Et puis en fait, quand on est allé les voir, on avait l'impression que c'était la même chose. Il y avait trop de ressemblances pour que ce soit une simple coïncidence. Donc on s'est dit, ben, comme on n'est pas les seuls, on va essayer de se mettre en réseau. On a démarré en 2014 pour lancer ce réseau. Et on s'est dit, ce réseau-là, c'est simplement des gens qui veulent créer des espaces capacitants, des espaces innovants. Et on veut définir un petit peu ce que c'est. C'est quoi un Learning Lab? C'est un lieu, un écosystème d'expérimentation, d'innovation sur les nouvelles formes d'apprentissage et en recurrent à un ensemble d'outils, de méthodes, d'environnements. Voilà, c'est ça un Learning Lab. Et on s'est dit, on va créer une charte en 6 points qui sera la communauté des gens qui vont nous rejoindre pourront partager. Alors c'est un peu comme on l'a voulu d'ailleurs volontairement, c'est un peu comme les camemberts du Trivial Pursuit, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout avoir tout de suite. L'idée, c'est que les gens peuvent rentrer dans le réseau des Learning Labs avec l'idée de créer un espace, mais il n'est pas encore fait, il n'est pas encore construit. Mais justement, c'est bien d'échanger avec ceux qui ont peut-être déjà fait les choses, parce qu'on est là pour apprendre les uns des autres. Et donc, de rentrer dans cette communauté, ça permet aussi, il ne faut pas avoir un produit fini pour rentrer dans la communauté. Donc la charte en 6 points, c'est simple, c'est d'abord des lieux pour favoriser l'innovation pédagogique. La pédagogie, c'est d'abord le point clé. Il faut disposer d'un espace innovant ou être en mode de création d'un espace innovant, avoir des équipements dédiés à l'appui pédagogique, s'appuyer sur un dispositif de recherche. Vous allez me dire, mais tout le monde n'a pas d'équipe de recherche. Oui, mais on peut être un terrain de recherche. Donc il peut y avoir des gens qui vont venir voir ce que vous faites. Soutenir l'acquisition de compétences. Oui, on est en lien avec la thématique. Soutenir les compétences, c'est un point clé dans la charte des Learning Labs. Être un lieu ouvert, accueillant, donc un lieu qui accueille d'autres publics, qui n'est pas enfermé sur lui-même et sur lequel on peut visiter, venir voir, accueillir d'autres publics. Ça, c'est la charte que l'on a. Et de 2 en 2014, on est maintenant sur un réseau de 70 institutions. Alors, principalement des universités, des écoles publiques ou privées de l'enseignement supérieur, mais pas que. Alors l'université de Caen, j'ai pas oublié le logo, hop là, ici, il y a aussi l'INSA de Rouen qui est là, voilà, donc dans nos partenaires normands. On discutait de l'université de Rouen il y a pas très très longtemps par rapport à des projets de financement demandés à la région, donc ça c'est un point qu'on pourra évidemment... Quand vous voulez, vous êtes le bienvenu. Voilà. Je sais que tu es en train de regarder. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à pénétrer aussi d'autres sphères. C'est-à-dire que la formation professionnelle et les entreprises, le groupe La Poste monte 11 Learning Labs en ce moment. Le CNFPT, hein, c'est le plus gros organisme de formation de France, quand même, pour la formation des personnels territoriaux, ouvre aussi des Learning Labs. Le CESI en a également. À l'international, bah nos amis de Laval qui ont rejoint le réseau, mais aussi l'Université catholique de Louvain, et puis le Halo College, qui est l'équivalent d'un ESP en Israël et qui a des espaces qui sont vraiment très, très, très intéressants. Et puis, donc, dans le secondaire, on commence à avoir des collèges, des lycées qui rentrent dans le réseau, notamment un collège qui est à côté de chez nous et qui a eu le prix de l'établissement innovant l'année dernière. Ce qui est intéressant dans la démarche du collège, c'est qu'ils sont venus. Ils sont venus nous voir, on a discuté avec les enseignants, ils ont fait des séminaires, ils ont réuni les parents, ils ont réuni les élèves, et ils ont co-construit leur espace. L'objectif, ce n'était pas de faire un clone de ce qu'on avait, ça n'avait aucun sens, mais d'adapter ça à leur contexte et à leurs besoins. Alors j'ai une petite vidéo, alors juste avant la vidéo, c'est... On est une communauté et on a des outils pour notre communauté, donc on a un réseau social privatif où on échange dans ce réseau-là. Donc ça permet. Alors ça va de qu'est-ce que vous utilisez comme peinture écritoire, jusqu'à quel dispositif vous mettez en place pour l'acquisition de compétences. Enfin, c'est très très varié. Quel profil je cherche, un profil, je vais embaucher un animateur pour un learning lab. C'est quoi le profil de poste? Alors on échange tout. On a mis en place une base de données aussi interne où on a même le prix que font les différents fabricants. Ce qui fait que quand quelqu'un veut monter quelque chose, et attendez. Cet endroit-là, vous avez fait tel prix, vous n'allez pas me le vendre à tel autre. Donc c'est aussi une manière d'avoir des points d'influence vis-à-vis des constructeurs, des fabricants. Et puis donc je voulais juste terminer par un extrait, on ne le verra pas tout, mais cette vidéo sur le collège dont je parlais, pour vous montrer ce que c'est qu'un learning lab dans un collège. Alors réalisé par une élève de 3e, qui, à mon avis, n'a plus grand-chose à apprendre sur ce que c'est que... voilà, je pense qu'elle aura trouvé sa voie, mais qui est très professionnelle, puisque cette vidéo, vous ne la trouverez pas sur YouTube, parce qu'elle l'a mis enfermée sur YouTube. Elle m'a dit, je n'ai pas encore acquis les droits sur les musiques, je suis en train de travailler là-dessus, et donc, tant que je n'ai pas les droits, je ne la laisse pas publique. Respect, moi, j'entends ça, 3e, ça va, c'est bon. Elle a compris. Alors, quand vous verrez la vidéo, vous comprendrez aussi... voilà, le sens de ce qu'il y a là.
Mais au fait, c'est quoi Éclat ?
Pédagogie, expérience, introduction des outils numériques dans les classes.
Entre 1950 et 2016, il s'est passé énormément de choses. Par exemple, en 1969, on a marché sur la Lune. En 1974, on a inventé la carte à puce. En 1990, il y a eu l'annonce publique du web. Tous ces événements ont bouleversé notre société. Et pendant ce temps, les élèves sont restés assis de la même manière pour apprendre de la même façon. Aujourd'hui, Éclat change ce système d'apprentissage. Elle le rend plus ludique. Les élèves ont à disposition des nouveaux outils, comme les tablettes, les chaises roulent. Ça permet de modifier rapidement la disposition de la classe. Au fond, on peut voir un coin plus confortable avec des coussins. La posture du prof a changé, il n'a plus de bureau et peut être plus disponible pour accompagner les élèves qui sont en travail autonome. On a même un tableau interactif et un mur sur lequel on peut écrire. Dans cette salle, on peut facilement travailler en groupe.
Le fait d'avoir des élèves qui travaillent en groupe, moi, ça me dégage du temps pour justement aider des élèves en difficulté.
C'est bien parce qu'on peut travailler sur les tablettes et puis il y a beaucoup plus de choses et c'est beaucoup plus intéressant.
Les tablettes, elles nous aident un peu, c'est très pratique.
Il y a plein de documents où on voit toutes les réponses pour répondre aux questions.
Les cours sont disponibles sur un site internet, les élèves peuvent les visionner à volonté.
Ah. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans dans la vidéo qui dure plus longtemps, mais l'essentiel, c'est aussi ce qui est dit par l'enseignante qui est là. C'est moi, ça me dégage du temps pour pouvoir aider ceux qui sont en difficulté. Alors évidemment, le temps qu'elle a gagné là, c'est tout le temps de préparation qu'elle a fait, évidemment, en amont, de prévoir des parcours différenciés, etc. Mais le fait d'avoir des espaces de ce type-là, la place dans une posture totalement différente de ce qu'elle était avant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est comme moi au tableau en train de présenter devant des gens en rondognon. Non, c'est totalement différent. Elle lance des activités effectivement de manière un peu magistrale et après, c'est pop, ils se mettent en groupe, ils travaillent et elles passent au milieu d'eux. Donc ça change aussi la manière d'interagir et on est sur des choses qui sont beaucoup plus centrées sur l'apprenant et sur les difficultés de chacun. Donc, voilà, donc pour résumer ces espaces, avant tout, si il y a un mot à retenir, c'est des espaces capacitants, c'est-à-dire qui permettre d'ouvrir la capacité de faire et non pas qui bloque les choses. Voilà. Donc, merci de votre attention. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 10 ans, on ne savait pas que ça allait fortement pénétrer notre quotidien, le numérique, mais savoir ce qui va se produire dans 10 ans, ce n'est pas vraiment possible non plus. Le seul message qu'on peut dire, c'est ce qu'on doit faire, c'est essayer de permettre, prévoir, on ne peut peut-être pas, mais permettre, donc d'avoir des lieux pour permettre, ça c'est important. Et je termine par cette petite phrase d'Albert qui disait qu'il n'avait jamais enseigné à ses enseignants, ses apprenants, qu'il avait simplement leur donné des conditions pour qu'ils puissent apprendre. Et ça, c'est, je pense, un message à retenir. Merci.
Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je vous propose de garder vos éventuelles questions pour la fin de la session et de tout de suite donner la parole à Didier Paquelin. Didier Paquelin, qui nous vient de l'Université Laval à Québec et qui est titulaire d'une chaire de leadership en enseignement supérieur à l'Université Laval. Parmi plein de choses dont il s'occupe, alors plein, ça je pourrais les détailler, mais ça prendrait du temps et du coup ça nous mettrait en retard. Didier travaille sur les écosystèmes pédagogiques et la façon dont on peut transformer les pratiques pédagogiques dans une espèce de vision globale qui va de l'espace physique d'apprentissage à la continuité numérique que ces espaces induisent. Voilà, donc c'est tout à fait en lien, quand on a mis ces deux-là ensemble dans la même session, on savait ce qu'on faisait, c'est tout à fait en lien avec le côté capacitant que nous expliquait tout de suite Jean-Pierre. Et puis donc, je vous propose de l'écouter et puis on prendra peut-être quelques questions juste avant d'aller déjeuner tout à l'heure à la fin de l'intervention de Didier.
Bonjour. Vas-y. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Quelle heure est-il ? 12h19 ? Vous avez pris suffisamment de chocolatine, de croissant, de café pour tenir quelques instants. Alors, ce quelques instants, il est égal à quelle valeur, Pierre ? 20 minutes ? 2 heures ?
Alors, il est 12h19, tu l'as dit, et normalement on aurait dû s'arrêter à 12h30, mais si on n'avait pas pris un quart d'heure de retard, vu qu'on a pris un quart d'heure de retard, ça nous emmène à 45 et des brouettes. On va essayer de pas trop déborder, parce que le temps que j'utilise tout de suite, c'est le temps
pas,
de moi en question.
Non, on ne débordera pas. Donc vous me rappellerez, etc., si vous avez le sentiment que je commence à dire un peu n'importe quoi, déjà. Donc merci beaucoup pour cette invitation qui va, vous allez le comprendre assez facilement et aisément, être dans la suite avec une approche complémentaire, différente, pluriculturelle de ce qui a été vu avant à différents niveaux. Et en fait, j'ai réajusté, puis vous verrez, j'ai essayé de faire une boucle sur la matinée. Si j'arrive jusque-là, ça me fera plaisir de partager ça. Donc, je suis Didier Paquelin. Certains ici me connaissent depuis très longtemps, il est là, on a vieilli tous les deux. Et juste pour dire que cette question des espaces, en ce qui me concerne, c'est vraiment une chose à laquelle j'accorde une importance, à laquelle je m'intéresse depuis de très, très, très nombreuses années. Pas pour dire qu'avant qu'on en parle, mais parce que j'ai toujours considéré que notre action était située dans un habitat, quel qu'il soit, que ce soit une salle de classe, que ce soit, je veux dire, une médiathèque, que ce soit un centre de ressources, etc., etc. C'est-à-dire que l'homme, la femme, c'est à peu près pareil, hein. Je veux dire, nous sommes des êtres qui sont situés dans de l'espace, du temps et du social. Et aujourd'hui, l'un des enjeux lorsque l'on parle d'espace, c'est d'essayer de se dire, mais au fond, en quoi les projets que nous allons mettre en place de reconfiguration spatiale servent en quelque sorte cette trinité dont l'équilibre, on le sait aujourd'hui, est quelque chose qui est favorable, qui rend capable d'apprendre et d'enseigner. Et donc toute la réflexion que j'ai le plaisir de partager avec vous, c'est de voir comment aujourd'hui, à partir d'une pensée de l'espace, eh bien, on peut, je veux dire, participer de l'émancipation à la fois de l'individu, du sujet, quel que soit l'âge. Bon, là, je vais m'intéresser plutôt au niveau de l'enseignement supérieur, mais aussi avec, je veux dire, ce verbe du premier groupe que moi j'utilise beaucoup, c'est comment on peut réenchanter l'acte d'enseigner et d'apprendre en repensant les espaces. Parce qu'aujourd'hui, ce qui me semble important, c'est justement de retrouver le plaisir et le désir de se retrouver pour apprendre. Car apprendre, c'est un effort, ce n'est pas forcément drôle. On a parfois du mal à capter la personne qui est tout au fond, là-haut, et pourquoi elle est derrière son écran, etc. Est-ce que je l'intéresse, je ne l'intéresse pas, bon, etc. Et ça, c'est vraiment des questions, je veux dire, quand on est dans la fosse ici, dans cette solitude de, comment dire, du parleur de fond, parce que pour faire le chemin, c'est un peu compliqué, parce que je ne peux pas venir vers vous. Vous voyez, je suis empêché. Bon, bref, tout ça pour dire quoi? Pour dire, dans la suite de ce qu'a avancé Jean-Pierre tout à l'heure, aujourd'hui, on n'apprend plus comme avant. Ça, on pense que c'est ça, mais au fond, c'est quand même les mêmes neurones qui fonctionnent. Et je pense quand même que même si on a ces élans de nouveauté qui notamment se traduisent par rapport aux espaces, au fait que certaines activités sont aujourd'hui déliées des espaces qui en contraignaient auparavant la réalisation, aujourd'hui c'est vrai qu'il y a une plurispatialité qui permet de réaliser une diversité d'activités. Je suis plus obligé d'aller dans une bibliothèque pour accéder à la documentation, mais ça, ce qui est drôle quand même, c'est qu'il y a toujours autant d'étudiants qui vont dans les bibliothèques. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est pourquoi vont-ils dans cette bibliothèque? Certes, ça ressemble à un cloître ici, je veux dire, à la fois roman et début gothique, avec toute une symbolique, je veux dire, qui est présente ici. C'est plus un scriptorium, c'est, je veux dire, un lieu pour lire, peut-être travailler. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que même si le numérique est fort présent, il y a des lieux qui vont maintenir la permanence de leur intérêt. Alors, moi, ce que j'essaye de travailler, c'est cette petite question-là. Vous l'avez lu, je ne la lis pas pour vous, et d'essayer de voir un petit peu au-delà de la considération de l'espace comme étant une entité dans un endroit donné, on appelle ça Learning Lab, c'est ça, Fab Lab, etc., mais ce que vous voulez, c'est d'essayer de vous sensibiliser à une approche globale et comment, en fait, tout un ensemble de lieux va faire territoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle ce territoire vécu du côté de la géographie sociale, c'est-à-dire là, je veux dire, ce territoire qui, dans une certaine distance, va contenir tout un ensemble d'activités du quotidien. Alors, au fond, c'est de se dire, mais quand je suis vis-à-vis d'un campus, alors si vous cherchez quand, c'est assez facile, hein. Ça marche ton truc, oui. Quand c'est tout au bout là-bas, là vous avez le Saint-Laurent, vous avez les Inuits, etc. qui sont là. Voilà. Donc ici vous avez un campus. J'aurais pu prendre celui de Caen, mais comme il y en avait plusieurs, j'ai pas su lequel choisir. Je voulais me, fâcher avec personne, donc j'ai retenu celui-ci. Chaque campus a déjà, d'un point de vue, je veux dire architectural global, je veux dire une puissance symbolique. Là, je ne vais pas vous le faire, mais c'est très facile de retrouver la croix catholique, apostolique et romaine. Vous prenez, vous prenez par exemple l'université Bordeaux-Montaigne où j'enseignais 15 ans. Je veux dire la symbolique architecturale, c'est la clé du savoir. Si vous prenez à côté la symbolique de la faculté de droit, c'est le marteau du juge. Enfin, il y a quand même tout un ensemble de choses qui sont là, qui sont des implicites, mais quand même qui structurent des organisations. Ce qui nous intéresse là, c'est plutôt de se dire, mais dans tous ces espaces-là, qui sont multiples, qui sont divers, ils sont grands, ils sont petits, éclairés, pas éclairés, ils sont en sous-sol, ils sont sur le rooftop, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait et comment ça fonctionne? Eh bien, je ne vais pas revenir sur la différenciation classe, hors classe, formelle, informelle, mais aujourd'hui, ce qui est intéressant et à mon avis important à considérer, c'est la continuité de ce qui se fait hors classe et en classe, parce qu'on sait très bien que, notamment dans certaines configurations dites amphithéâtres, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas là qu'ils ne vont pas réussir, et s'ils réussissent, c'est qu'à minima quand même ils travaillent, et qu'ils travaillent quelque part et dans des lieux parfois qui nous échappent complètement. Or, il pourrait être intéressant, non pas de superviser, mais d'apporter une qualité de service à certains espaces. Et donc, c'est vrai qu'on a aujourd'hui une pluralité d'espaces qui, ici, ce n'est pas un damier, hein, et puis Jean-Pierre le connaît bien. Ça, j'arrive pas, là, je suis mal pris avec ton truc, là. Voilà, ça. Et puis, bien sûr, la mode, parce que, alors moi, je suis un peu provocateur là-dessus, la mode du dire, eh ben, on va faire, comment dire, de la pédagogie active. Ben, heureusement que Freinet n'a pas attendu qu'on invente ce mot-là, parce qu'il y a quand même tout un ensemble de choses qui n'auraient jamais existé. J'aime à provoquer, j'aime aussi à rappeler, comme l'a fait Jean-Pierre, de dire que la configuration des classes autobus, c'est-à-dire qui sont structurées en trois tiers, mais avec un tiers principal qui est là où je suis, c'est moi qui ai le gros bout du bâton, et puis c'est moi qui vais diriger ou pas votre attention, et faire en sorte que vous allez supporter le fait d'arriver à 12h45. Mais c'est toujours la même organisation, une organisation qui remonte à l'époque sumérienne. C'est dire que, je veux dire, les habitudes ont la vie dure, mais malgré le fait que ces habitudes ont la vie dure, on voit quand même qu'il y a un certain nombre de lieux qui sont mis en place pour, je veux dire, accueillir une diversité de spatialisation des activités. Et quand on interroge les étudiants, en fait, les étudiants, ils vivent dans deux mondes, c'est connu. Le monde de gauche, où vous avez l'établissement, les restaurants, enfin, grosse rue ici, c'est ça, les bibliothèques, le monde un peu marron, là, je ne sais pas quelle couleur j'ai mis, et puis le monde dans lequel il se passe la majorité des choses, c'est le monde externe, hors institutionnel, dans lequel à la fois on retrouve des restaurants, le domicile chez des pairs, dans des bibliothèques, médiathèques, dans des transports et dans des tiers-lieux. Aujourd'hui, c'est ça la réalité de l'étudiant, de manière plus ou moins explicite, plus ou moins connue de ceux qui font le bâti sur les campus universitaires, mais moi, pour lesquels il me semble qu'il est intéressant, comment dire, d'aller chercher des données, parce qu'on va se rendre compte, par exemple, qu'en fonction du type d'activité que fait l'étudiant, c'est-à-dire que s'il apprend, à la fin j'y arriverai, que s'il apprend, s'il révise, s'il prépare un oral, s'il travaille en groupe, s'il réalise un dossier, s'il fait la recherche documentaire ou de la lecture, eh bien la répartition du temps consacré à ces activités n'est pas la même, et sa répartition spatiale n'est pas la même entre le « dans », en jaune, institution, et « hors institution ». Ce qui est intéressant de constater, c'est que aujourd'hui, l'étudiant, pour apprendre, l'apprendre, c'est d'ailleurs cet acte dit solitaire, etc., pour aller vite, et en grande majorité, ça se fait à l'extérieur, là où le travail de groupe, par contre, est équilibré à l'intérieur. Alors, je vois des photos qui se prennent, selon une logique qui ne m'appartient pas, mais que j'emprunte à, pour moi, une grande dame, qui était de dire « tout ce qui n'est pas donné est perdu, ceci sera remis à la communauté, et vous pourrez en faire ce que vous voulez, si tant est que ce soit des choses bien. » D'accord ? Quand on regarde, et si on va un petit peu plus loin dans l'analyse des pratiques des étudiants, en fait, en reprenant une diversité de situations, on va s'apercevoir, en fait, que cette distribution, elle va se faire de manière plus ou moins importante, hein, c'est, bon, là, ça s'est transformé en ellipse, mais selon ce diamètre, et qu'il y a une grande variation aussi en fonction d'un certain nombre d'éléments. Par exemple, la répartition des activités dans les espaces bibliothèques ici, que ce soit pour réviser, pour la lecture, pour le travail personnel, on sait que c'est notamment lié à deux choses, c'est-à-dire c'est lié au cycle dans lequel est inscrit l'étudiant, et quelle que soit la latitude et la longitude, c'est lié également à ce qu'on appelle son sentiment d'auto-efficacité ou son sentiment d'efficacité personnelle, son sentiment de confiance dans sa réussite. Et c'est pour ça qu'on continue à avoir, je veux dire, du monde dans les bibliothèques, parce qu'on a de plus en plus d'étudiants qui se sentent anxieux, qui se sentent peu confiants dans leur réussite. Donc, en fait, s'ils sont là, ce n'est pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on peut être content, parce qu'on dit, si je suis dans les bibliothèques, vous voyez, j'ai toujours du monde, c'est bien, ne fermez pas, même s'il y a moins de livres. Oui, mais est-ce qu'on sait pourquoi ils sont là, et est-ce qu'on sait apporter les services qui vont bien en face? Si je fais un petit focus sur ce qui se passe dans les espaces commander un informel, les bibliothèques et les restaurations, c'est-à-dire là où je peux choisir d'aller, mais qu'est-ce que je veux constater? Je vais constater que, en fait, qu'est-ce qui va faire la fréquentation des lieux qui ne me sont pas imposés? C'est plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que lorsque je ressens le fait que le campus va me permettre d'exister pour réaliser différents types d'activités. C'est-à-dire que quand je suis sur le campus, je suis à la fois étudiant, mais je peux être sportif de haut niveau, je peux être travailleur, etc. C'est-à-dire que le campus, et dans sa configuration spatiale, dans ses aménagements, doit accueillir cette pluri-activité, si je puis dire. Ce qui est aussi fortement recherché par les étudiants, et un petit peu moins par les enseignants et autres, c'est si je viens sur le campus, il faut que je retrouve des dynamiques de socialisation. C'est-à-dire qu'un campus qui fonctionne aujourd'hui, c'est un campus qui a cette fonction de socialisation. Pourquoi ? Parce que lorsque vous interrogez les étudiants et lorsque vous leur demandez « mais pourquoi allez-vous dans tel et tel espace ?», la première réponse qui vient chez tous les étudiants, c'est parce qu'il y a d'autres étudiants. Pas forcément parce que je veux jaser, discuter avec eux, parce que je fais partie d'une communauté, et même la coprésence dans cette communauté, même si c'est une coprésence passive, c'est-à-dire que je ne vais discuter avec personne, j'ai envie d'être avec des semblables. Et ça, c'est des éléments. Or, certains disent, quand je raconte ça, oui, c'est la génération Z. Peut-être, en tout cas, les faits et les recherches montrent ça. Et puis l'autre élément aussi qui est important pour que ces espaces à ce niveau macro de campus fonctionnent, il faut qu'ils fassent territoire. Faire territoire, si on réfère aux géographes, aux anthropologues également, un territoire, c'est quoi? C'est une frontière, c'est-à-dire une délimitation. Je sais quand je suis dedans, quand je suis dehors. Je sais que quand je suis dedans, je me reconnais dans l'identité, dans un certain nombre de choses, d'éléments, d'activités, de configurations, de couleurs, etc., qui fondent mon identité. Puis un territoire, c'est aussi ce lieu où je peux réaliser tout un ensemble d'activités complémentaires sans devoir changer de registre de valeur. Pour accéder sur ce territoire, il me faut telle carte, mais si je vais dans un autre local, il me faut une autre carte. Ça passe également par ces éléments-là. Et c'est ce qu'on appelle, en faisant référence au transport, à l'intermodalité, c'est ce qu'on appelle des campus sans couture. C'est-à-dire des campus dans lesquels la circulation est aisée, et circulation qui me permet d'accéder à une diversité d'espaces qui vont venir supporter la variété d'activités à la fois d'apprentissage, de loisirs, de socialisation, qui sont les miennes au quotidien. Tout ça, en fait, pour dire que le territoire de l'apprendre, c'est à la fois une dimension académique, non académique, et qui emprunte au prescrit, c'est-à-dire l'amphi. Quand je viens en amphi, ça veut dire que je suis obligé, mais ça emprunte aussi à d'autres lieux et d'autres activités. Ce qu'on a parfois peut-être un peu oublié, c'est que l'organisation spatiale, elle, ça ressemble pas mal, hein. En fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment celui-ci lorsque je suis arrivé ce matin. C'est lorsque c'est paru en septembre 2014, hein. Donc, ce n'est pas vous, là, bien sûr, mais au fond, ça rejoint beaucoup, et ça, Jean-Pierre l'a dit, la difficulté quand même, en tout cas, ce qu'il faut arriver à conscientiser et à travailler, c'est le fait qu'on est dans un schéma théologique de l'apprentissage. Il y a quelqu'un qui sait, qui tient le verbe d'en haut, c'est-à-dire le haut, c'est son doctorat, son habilitation, etc., ses recherches, et qui, par cette légitimité sociale, est autorisé à transmettre à autrui. La grande différence, en règle générale, c'est qu'il n'y a même pas de Torah, de Coran ou de Bible, puisqu'on est aussi dans un monde sans manuel à ce niveau-là la plupart du temps. Mais derrière ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un espace, pour le comprendre, il faut en comprendre ce que l'on appelle les affordances. Et ici, c'est assez intéressant. C'est aujourd'hui, d'accord? Et moi, je repère toujours, mais pourquoi c'est plus rempli de ce côté-là que de ce côté-là? Pourquoi là-haut, des personnes sont là-haut alors qu'il y a de la place là? Tous ces éléments-là, en fait, c'est ce qu'on appelle, ce qui relève de la maîtrise, de la perception des affordances, c'est-à-dire ce que l'espace nous contraint ou nous permet de faire. Et pourquoi c'est plus chargé là? C'est simple, l'entrée principale est là, alors qu'il y a une autre entrée. Mais pourquoi vous allez vous mettre là et pas là? Parce que on va, pour ceux qui sont là, vous ne répondez pas, etc. Mais très souvent, c'est parce qu'on est proche du chemin qu'on vient de faire, donc on va ressortir plus vite par là. Ensuite, un autre élément d'affordance ici, c'est les prises électriques. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle les affordances. Mais il y a également un ensemble de contraintes. La contrainte, vous ne la voyez pas. Alors, ce sont les cheveux d'Isabelle. L'affordance aussi, peut avoir des effets, néfastes. Ici, on a une superficie de 26 cm, une largeur de 26 cm, d'accord, qui est la largeur du laptop, par exemple, de la marque à la pomme et d'autres. Et tout à l'heure, moi, j'étais à la même place, et il y a un effet chignon qui s'opère. J'explique, c'est-à-dire que là, tu n'en as pas, mais en fait, ce qui se passe, c'est que la personne qui est devant, en fonction de sa coiffure, va faire en sorte qu'elle va bouger mon truc. Ça veut dire qu'il y a également tous ces éléments-là, mais ce n'est pas que de la rigolade, c'est un petit peu de détail. Derrière ça, l'espace, nous contraint, nous habilite, offre des possibles. Je pourrais vous prendre d'autres exemples. Derrière ça, au-delà de cet élément-là, moi, ce qui me semble important quand on considère les espaces, c'est de se dire, mais pourquoi je veux ce type d'espace? Et c'est là où il convient, à mon sens, de se rappeler quand même de certains principes pédagogiques. Et parmi ces principes pédagogiques, il y a notamment ceux que l'on appelle les principes de l'engagement. Apprendre, c'est quoi ? Apprendre, c'est s'engager d'un point de vue cognitif, comportemental, social, affectif. Si vous voulez les définitions, je vous les mettrai, mais vous les connaissez sans doute. Mais au fond, si je pense un espace, c'est aussi pour, dans une intention de supporter, et ça rejoint la notion de capacitation, de favoriser ces multiples formes d'engagement. C'est-à-dire, je ne fais pas un espace parce que, j'ai vu la chose ailleurs. Non, il faut toujours revenir, à mon sens, à l'intention. Et de se dire aussi quelles sont les valeurs pédagogiques que, vont venir, supporter, exprimer les choix de configuration spatiale que je vais opérer. Alors là, je vais un peu vite, mais vous avez tout compris, le sens du propos. Et ça, si vous voulez, à la fois l'espace nous donne des possibilités, à la fois les dimensions pédagogiques, bien sûr, sont importantes, mais à la fois aussi, il faut s'interroger sur ce qu'on appelle les parcours dans les territoires. Vous avez déjà remarqué que il y a, dans des aménagements urbains ou même pas urbains, il y a ce qu'on appelle les couloirs de circulation prescrits, ce qu'a fait l'architecte, c'est beau, tout ça, ça lui va bien. Et puis, il y a ce qui est vécu, c'est-à-dire ces sentiers qui viennent, abîmer la pelouse et dont on voit qu'au bout d'un an, etc., il y a le vrai chemin. Et ce qui est important aussi quand on pense l'aménagement spatial d'un territoire, d'un campus, etc., c'est toujours se re-questionner sur mais quels sont les parcours ? Quels sont les parcours habituels des clientèles, et je vais vous provoquer avec ce mot-là, qui viennent sur le territoire, qu'ils aient 79 ans, qu'ils aient, etc., peu importe, mais quel est leur parcours ? Et nous avons eu la Finlande tout à l'heure. Il y a dans les pays nordiques, il y a aussi une grande compagnie qui vous permet d'apprendre à monter des meubles vous-même et qui a fort bien compris, je ne fais pas de placement de produit, Monsieur Berthet, et qui a fort bien compris comment vous manipuler à travers l'espace et faire en sorte, quand ils font les tests, vous êtes votre propre piégeur. Mais ça vous appartient. Et au fond, ce qui est important, c'est que quand on part d'un plan, ici c'est un plan qui est construit de choses que l'on a faites, c'est se dire, oui tiens, les personnes, par exemple, c'est dans la bibliothèque, ah oui, on ferait bien quelque chose là. Ok, tu veux faire quelque chose là, déjà quelque chose, tu vas me dire ce que c'est. Puis après, pourquoi tu le fais là ? C'est pas mal, hein. Ça fait longtemps qu'il y avait des bouquins, il n'y en a plus, on ne sait pas quoi en faire. Ok, d'accord. Ça ne suffit pas. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est dire, est-ce que je ne peux pas le mettre en bas ? Mais au fond, de se dire, est-ce que je ne peux pas mettre là-haut ? Et de faire des études toutes simples, d'études de circulation, et de se dire, en fait, c'est là où ça doit être. Parce qu'à la fois, il y a un habitus, puis à la fois, il y a un raccourci. Tout ça, ça peut vous paraître des éléments peut-être anecdotiques, mais c'est juste pour vous sensibiliser à l'ensemble des dimensions à prendre en compte quand, on gère des espaces. Et un espace, aujourd'hui, n'est pas à considérer uniquement pour lui-même, mais à considérer au regard des activités que l'on veut qu'il soutienne et au regard également des technologies qui sont présentes. On pourra en parler beaucoup de temps. Mais par rapport aux activités, c'est vrai que c'est toujours intéressant de se dire, mais au fond, quels sont mes scénarios pédagogiques de l'équipe pédagogique ? Alors c'est sûr que plus vous êtes en approche programme, etc., plus c'est facile aussi à mener ensemble, mais de se dire quelles sont les différentes situations pédagogiques que l'on souhaite mettre en œuvre. Ici, il y en a des exemples, et là, on était uniquement sur le présentiel, et se dire comment ça veut se décliner. Bon, là, on est le cas à plusieurs, c'est un petit peu la situation d'aujourd'hui. Ça veut dire que c'est comme ça, ça veut dire qu'on aura plutôt une forme d'auditorium, puis ici plutôt ce type d'équipement. Si je prends quelque chose de travail à plusieurs, les exemples, là c'est des questions réflexives, discussion de groupe, ça de l'apprentissage actif, après on ira dans le détail, et voilà ce que ça va provoquer. C'est de se dire, non pas je mets la réponse à un problème qui n'a jamais été posé en avant, mais de revenir sur à la fois des fondamentaux pédagogiques, sur des valeurs également pédagogiques, et sur différentes situations que l'on souhaite mettre en place. Et ça va donner naissance à différentes configurations. Et c'est vrai que tout ce travail-là est important, parce que si vous voulez, d'une salle telle que celle-ci, qui est une salle de 40 places que l'on a fait évoluer, 140 places, mais c'est de se dire, on part de ça, et comment on arrive à cela ? Ok ? Et comment on arrive à ça ? Au fond, c'est à travers toute une démarche de réflexion qui nous permet de dire, ici on a en génie, science de l'ingénieur, OK, on veut qu'il y ait des travaux de groupe, etc. On veut que les groupes, je veux dire, peuvent avoir un petit côté privatif. Mais comme parfois avec le prof, où le prof souhaite voir tout le monde, ben on va utiliser des verres intelligents qui font qu'à gauche, je veux dire, quand il est sur, avec un certain statut, eh bien c'est opaque. Et sinon, le verre intelligent, je l'éclaircis et je vois tout le monde. C'est tous ces éléments-là, tout ça pour 540 000 dollars. Mais pour l'ensemble, hein, non, pour l'ensemble, bien sûr. Mais c'est aussi de se dire, quand je pense un espace, par exemple une salle d'apprentissage actif ici, 42 places, il y a des questions toutes bêtes. Mais en fait, la question, c'est qu'est-ce que je fais à la verticale, qu'est-ce que je fais à l'horizontale? Oui, je sais, vous avez des idées pour ce soir, mais ce n'est pas ça que je vous dis. Là, c'est juste pour se dire comment je vais utiliser les quatre pans du volume, ou 6 ou 7, enfin, selon ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que je mets au plafond? Qu'est-ce que je mets au sol? Qu'est-ce que je mets au mur, etc. Là, bien sûr, au sol, vous allez me dire, il n'y a rien à mettre. Il n'y a rien à mettre parce que, je veux dire, tout est fixe. Oui, c'est fixe, on est d'accord. Mais dans certains cas de figure, imaginons que le projet, c'est de se dire, j'ai une salle qui peut accueillir 140 personnes et je veux que, pendant les 20 premières minutes, ce soit en mode autobus, qu'en 5 minutes, je transforme ça en îlot et que 20 minutes avant la fin, ce soit des emplacements individuels. Tout ça avec 140 personnes dans la salle et une modification de l'espace en 5 minutes. Moi, j'aime ces challenges-là. Parce que c'est ça aussi la réalité. Parce qu'on peut pas. Il faut penser le passage à l'échelle. Donc, l'idée, c'est toujours de se dire bah, tiens, dans une salle telle que celle-ci, on parle des intentions pédagogiques, on veut qu'ils discutent, on veut qu'il y ait de l'espace d'échange et d'idées, on veut les faire bouger. Parce que quand on fait de la pédagogie active et qu'on est toujours assis comme on l'est assis depuis que l'on a 2 ans sur les bancs de l'école, je veux dire, il y a quand même des schèmes qui restent. Hein. Et donc, pour comment inviter les personnes à aller debout? Et puis tout ça, ben, ça va prendre des formes de solutions d'organisation. C'est juste cette idée-là que je voulais partager avec vous, peu importe ce qu'il y a dans l'un et dans l'autre, c'est vraiment cette organisation. Et puis, pour terminer... Là, j'ai beaucoup parlé des espaces prescrits, académiques, etc., formels, mais il y a également tout un intérêt, au moins équivalent, puisque quand même, heureusement qu'on n'a pas appris uniquement à l'école ou à l'université, parce qu'on pourrait se demander ce que l'on sait vraiment. Et pareil ici, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas uniquement dans un amphi, mais on apprend également ailleurs. Et c'est ailleurs ce qu'on appelle les espaces non formels, je veux dire comment les comprendre, comment les organiser. Ici, c'est un atrium, il y a plus de 400 places. Je veux dire que, bon, ça, on s'en moque, ici, on avance un peu, ça, on n'a pas le temps. Il y a d'autres espaces un petit peu plus petits. Bravo, il y en a qui suivent, merci. Toute la question, c'est de savoir, mais pourquoi on met des tables hautes? Pourquoi ici, on les fixe? Ben, bref, plein de questions. J'aurais vraiment plaisir à échanger avec les personnes qui ont fait ce design-là, parce que j'ai plusieurs questions. Et comment? Parce que ça, c'est une pensée qui est souvent oubliée. Comment, quand je configure des espaces, quand je pense des espaces, je pense les espaces du dedans au regard du dehors? Et ici, on a un très très bel exemple. C'est-à-dire que le dehors est là et on n'en fait rien. Je pourrais revenir sur le détail de ça. Juste pour dire que aménager un espace de ce type-là, comment mettre, quelle table mettre? Est-ce que je mets des grandes tables? Est-ce que je mets des petites tables? Etc. Comment organiser cela? Une façon de faire, c'est de travailler à l'observation, comme enfin, on fait en ethnométhodologie. Enfin, moi, je me pose, je regarde, enfin, bref, je ne fais pas grand-chose de ma vie, sauf à observer. Et de dire, mais au fond, que nous donnent à comprendre par leur pratique les étudiants sur leur appropriation de l'espace? Plusieurs choses. Déjà qu'on remplit un espace de la périphérie vers le centre. Donc ça nous questionne sur les couloirs de circulation. Ce que l'on cherche, ce sont des verticalités protectrices. C'est pour ça qu'on commence par l'extérieur. Puis ensuite, on va revenir, si vous voulez, comme ici, verticalité protectrice, il y a un petit mur, je me mets là. Et ce n'est pas la prise qui compte. Ce qui compte, c'est d'être protégé d'autrui, pour une partie, parce qu'on ne veut pas être attaqué de tous bords. Mais également le fait que je cherche une socialisation active ou passive. C'est-à-dire, est-ce que je veux être avec d'autres pour discuter ou juste être en coprésence? Et également, toujours ce truc de situer sur le chemin, parce qu'on est fait comme ça. Hein. Le mouton, l'âne, le cheval, le bœuf, on a tous nos chemins du quotidien. Mais derrière ça, et j'approche de la fin, je vais peut-être dépasser 2 minutes, il faut aussi aller à un niveau plus micro. Quand on regarde un petit peu cette masse d'étudiants, parce qu'ils sont nombreux, déjà, il y a deux points qui sont importants. Pour un grand nombre d'activités, notamment les activités dites dans des espaces non formels, alors ça, la nourriture, ici, tout ce qui est réchauffement de plat, et pas très loin, les toilettes ou la salle de bain. Okay. Mais ça, c'est des essentiels, d'autant plus si vous souhaitez accueillir dans ces espaces-là des temps longs de travail, notamment pour des préparations de dossiers, pour de la recherche, etc., du travail d'équipe. Et quand on regarde au détail, les personnes de l'immobilier disent, OK, on a un ratio ici, c'est tant de mètres carrés par personne, on peut en mettre tant. D'accord. On sait que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que quand on fait des zooms et quand on analyse, je vous passe le détail de la méthode, quand on fait nos petits dessins, on s'aperçoit au fond de quoi? On s'aperçoit, mais tout cela on le fait, puis moi je suis là-dessus expansionniste, c'est-à-dire ce que j'appelle la sémiotique de la spatialisation, c'est-à-dire qu'il y a une démarcation de l'espace, de chacun de son espace. Par exemple ici, on a quelque chose en commun qui est le programme, et puis on a une extension sur ta droite là, avec jusqu'au truc de lunettes là. C'est-à-dire qu'on est tous des marqueurs de territoire. Et ça, en fait, ça veut dire quoi? Dans le cas qui est ici, ah oui, non, mais regardez-vous, hein. Hop, 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 on ne s'énerve pas. D'accord? On reste là. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, là, quand c'est ombré, ça veut dire qu'on a des individus qui bossent. Et ce que l'on grise, c'est tout l'espace qu'ils utilisent avec tout. Alors, s'il y a des filles, c'est autre chose encore. Non, mais et c'est genré, ou sexué, parce que des fois, je ne sais plus. Non, ici, il y a des toilettes intéressantes là-dessus, je vous invite à aller les visiter. Bon, et on a, si vous voulez, bon, je fais tous mes petits dessins, je vais passer rapidement, mais voyez l'idée, c'est-à-dire que penser l'espace, c'est aussi penser l'occupation. Mais c'est aussi penser l'occupation, il faut bien la comprendre, qu'elle est liée au domaine. Par exemple, si vous êtes en théologie, vous n'utilisez pas le même espace que si vous êtes en journalisme. Si vous êtes en sciences infirmières, vous n'avez pas la même occupation de l'espace horizontal que si vous êtes en géographie, si vous travaillez sur des cartes, etc. etc. Donc, penser des espaces, c'est aussi aller à la rencontre des besoins et des pratiques. Et puis, bon, il y a des évolutions temps long, temps court. Au fond, et bientôt vers la fin, on sait aujourd'hui dire, si vous voulez, l'ensemble des composantes qui contribuent au choix par un étudiant et une étudiante de tel ou tel espace. Je ne vais pas faire tout le détail, juste pour dire que, comme je le disais, ça dépend de la nature de l'activité, si c'est pour lire, pour travailler en groupe, ça dépend du cycle d'études, ça dépend du domaine d'études. Si je vais à l'opposé ici, ça dépend fortement de mon sentiment d'auto-efficacité. Plus j'ai un sentiment d'auto-efficacité qui est faible, plus je vais aller vers des espaces dits contenants de type bibliothèque. D'accord ? Mais également, et je vais terminer presque là-dessus, à force de dire je vais terminer, il faut que j'y arrive. Par rapport au temps, ça c'est un point important. Aujourd'hui, on sait dire par exemple que quand on observe les étudiants, enfin tout ça, c'est, je ne raconte pas un monde rêvé, hein, c'est les études que l'on peut conduire. En fait, on sait que le matin, les étudiants cherchent la concentration dans ces espaces. L'après-midi, c'est du travail d'équipe. Et l'enjeu que l'on a quand on pense ces espaces, c'est comment ces espaces peuvent-ils accueillir cette diversité d'activités, sachant qu'entre les deux, je mange. Et ça, c'est des éléments qu'il faut considérer, c'est-à-dire d'aller vers le biorhythme, en gros, de l'individu, puis essayer de voir comment l'espace va pouvoir soutenir les activités qui s'organisent selon un certain biorhythme. Quand on fait ça, c'est simple à faire. La seule chose, c'est de réunir les bons acteurs au bon moment et de se dire, spécifier les besoins, ce ne sont pas les besoins de la sécurité, ce ne sont pas les besoins du patrimoine qui vont primer. C'est les besoins de l'ensemble. Il faut faire un projet commun. Okay ? Il ne faut pas oublier certains acteurs. Parce qu'on peut faire de très très beaux espaces, mais il y a une chose qu'on va oublier, qui va effacer le tableau blanc ? Ça ne s'efface pas pareil qu'un autre. Donc tous ces éléments-là, comment on va les embarquer ? Je ne parle pas de la techno, des prises, etc. Mais c'est aussi d'identifier les possibles. Et moi j'ai une vraie question, pourquoi les tables sont-elles vissées vers la machine à café? On a les mêmes installations dans d'autres établissements où c'est pas vissé, où on utilise d'autres techniques. Si l'idée c'était de dire j'ai peur que ça se déplace, eh bien c'est simple, on prend plusieurs cas, mais je vais penser à Strasbourg, eh bien on met du tape, du collant là, okay, par terre, et ça délimite l'espace. C'est tout. Donc il y a tout un ensemble d'éléments. Et aussi travailler sur l'acceptabilité. Vous pouvez faire les plus beaux espaces du monde. Si vous n'accompagnez pas cela avec de la formation des profs et de l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, ça ne marchera pas. C'est vraiment une approche écosystémique qu'il faut développer. Et pour se donner les chances de la réussite, c'est de réunir les conditions de petites histoires à succès. Nous, on développe des espaces. On y va pas à pas, comme la fourmi. Mais surtout, on prend le temps d'une co-éducation. C'est-à-dire, par exemple, on a co-éduqué les architectes et les acteurs du service patrimoine. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'est un cours. Oui, ils en ont eu, mais à un moment donné, puis certains, c'est comme moi, le dernier cours que j'ai eu, il y a quand même, comme je ne suis pas beaucoup allé à l'école, donc il y a très longtemps. Mais en tout cas, ça, c'est des éléments importants, et tout ça pour scénariser des usages potentiels. Et toujours se rappeler du pourquoi on fait les choses. Ça, on s'en moque. Et aujourd'hui, l'espace, au fond, je n'avais pas envie de la traduire, non, mais c'est juste pour dire que l'espace est vraiment un véritable vecteur d'expression d'une stratégie pédagogique et organisationnelle. Et certains l'ont bien compris. Et je vais reboucler, et là c'est vraiment la vraie conclusion. Bon, il n'y a que 7 minutes. Vous en avez marre, mais ça me fait plaisir. Souvenez-vous du proverbe chinois ?
1, 2, l'infini.
Ok, vous êtes très bons. Nous sommes dans ce que l'on appelle, où ça fait office de tiers-lieu, où on sert un café d'une mode nord-américaine, dont le nom commence par S et finit par S, qui dans son logo a du vert, du blanc, enfin, etc. Vous voyez un peu ? Eh bien, si vous observez certains équipements, vous avez des équipements qui sont des tables rondes, qui semblent faites de loin pour accueillir deux personnes. Donc c'est une table ronde. Cette table ronde, au fond, elle est tronquée. Pourquoi est-elle tronquée ? Parce qu'elle permet d'accueillir une deuxième table ronde. Et au fond, derrière ça, qu'est-ce que l'on retrouve ? L'infini des possibles. Merci beaucoup.